pour du plaisir à revenir ici à Grasse. Vous avez les salutations de notre toute petite église de Nyons. Alors Nyons, c'est quelque part vers Montélimar, Orange, par là-bas. Buis les Baronnies, voilà, c'est un petit village. Et on est une toute petite communauté, une douzaine de personnes. Mais figurez-vous que le Seigneur est aussi là. Et tous les frères et sœurs de l'Église vous saluent bien. Elisabeth aussi vous salue, mon épouse. Et je suis content de revoir des visages familiers. Alors, j'espère, le micro est pas bien. Voilà, comme ça. Vous entendez bien? D'accord. Alors, on va voir on va suivre avec des diapos, là. On va essayer de se synchroniser avec José, mais je suis sûr qu'on va y arriver parce qu'on est des vieux frères, hein. Voilà. Donc, on peut mettre à la première, si tu veux. Ah, mais c'est du bonheur d'être avec vous, hein. Je vous dis, hein. On va passer à la deuxième. Voilà un peu le thème de la prédication. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Et ça, c'est tout à fait notre époque. Parce que comme on est dans le postmodernisme, c'est-à-dire que mes pensées, souvent dans le postmodernisme, mes pensées sont justes. Puisque je le pense, et t'as pas le droit de penser autrement, en tout cas tu dois me respecter dans mes pensées, parce que je pense que mes pensées sont justes et je construis ma vie là-dessus. Vous pensez bien ce que j'en pense aussi. Hein. Construire sa vie sur ses propres pensées, c'est quelque chose de stupide. Et la seule manière de voir est celle de Dieu, qui lui est la réalité suprême. Alors on va passer à la diapo suivante. Voilà. La perspective biblique, donc c'est la réalité des choses. C'est là-dessus qu'on peut construire. C'est seulement là-dessus qu'on peut construire. Dieu est la vérité, donc la définit. Ce que je pense n'a pas grande importance, mais ce que Dieu dit, là-dessus je peux construire. La vérité existe indépendamment des êtres humains, et la foi et la logique sont loin d'être incompatibles. Alors, qu'est-ce qui s'est produit quand on s'est converti? On a pensé que ça y est, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mes difficultés vont s'aplanir, mon cœur a changé, tout va aller bien. Alors, nous avons reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. On n'est plus esclave, mais fils. On est aussi héritier des biens promis. Nous avons reçu l'Esprit qui fait de nous des fils et qui nous permet de dire « Père ». Nous avons un nouveau maître. Alors moi, le mot « maître », c'est toujours un mot qui me... Enfin, je sais pas, ça m'a pas très bien connoté. Alors, un nouveau père. Puis je me suis dit, peut-être qu'on pourrait dire un nouveau gourou. Parce qu'un gourou, c'est un maître à penser. Et donc, c'est vrai que nous avons un nouveau maître à penser. Nos pensées doivent être transformées selon la pensée du Père. Je pensais aux réfugiés. Pensez à ceux qui ont traversé la mer, enfin qui ont traversé le désert peut-être, qui ont été un temps esclaves dans un pays du Maghreb, qui ont quitté un endroit sec où il n'y a pas assez à manger, et puis qui ont entrepris ce grand voyage. Ils ont traversé le désert, et réussi à atteindre la Méditerranée. Ils ont traversé la mer. Les uns ou les autres ont vu des amis tomber à droite et à gauche. Ils sont arrivés en Europe. Ils ont été un peu accueillis. Un peu, hein. Et puis ils ont fait leur vie. Ils se sont installés, ils ont des enfants, etc. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de retourner dans leur misère première? Non, hein. Impossible. Et c'est la même chose pour nous. Si on a pris conscience de là où on vient, et souvent, dans les milieux chrétiens, on ne sait pas trop ce que c'est que le péché. On sait que c'est pas bien, mais on ne sait pas l'horreur que Dieu a du péché. Et si vous n'avez pas vécu ça, mais je vous encouragerai à demander à Dieu qu'il vous fasse comprendre quelle horreur du péché il a. Et quand vous aurez compris quelle horreur du péché il a, vous n'avez plus envie d'y retourner. Plus on a été pardonné, plus on comprend la valeur du pardon. Alors, ce qui ne s'est pas produit quand on s'est converti, notre corps n'a pas changé. Est-ce que c'est juste? 100% juste? Toi, 100%. Il y a quelqu'un qui a un autre avis, là? Et on peut parler, hein? Un frère et sœur, hein? Alors, est-ce que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose qui a changé quand on a donné dans notre corps, quand on a donné notre cœur au Seigneur? Oui. Quoi? Oui, sur le plan physique, hein? Oui, sur le plan physique. Oui, d'accord. Oui. Oui. Voilà. Par exemple, hein, le stress, hein? Hein? On pense au stress, oui, d'accord. Mais il y a quelque chose d'extérieur qui a changé, ou qui devrait avoir changé. Mais c'est le sourire. C'est le visage. Mais qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi t'as l'air heureux? Les maladies nous touchent toujours, même si le Seigneur, dans sa bonté, parfois nous guérit, puis les médecins aussi. Mais le sourire, le regard, doit avoir changé. Notre chair n'a pas été retranchée. Alors, qu'est-ce que c'est le mot chair? Le mot chair, c'est pas la viande, hein. Le mot chair, sont nos anciens fonctionnements. C'est pas parce qu'on a donné notre cœur au Seigneur que nos anciens fonctionnements ont changé. Donne un exemple. Si, pour vous défendre, depuis tout petit, quand vous êtes agressé, vous fuyez, c'est une manière de se sécuriser. Ou vous retranchez, ou vous rendez coup pour coup. Ce sont des fonctionnements qui sont intégrés à nous. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre sécurité quand on n'est pas chrétien. Et ça reste. Mais est-ce que c'est juste? C'est pas juste. C'est pas juste de rendre coup pour coup. Alors, on a toujours ça en nous. On s'est converti, mais on a ces anciens fonctionnements. Et il y en a, je vais pas faire tous les scénarios possibles, hein, mais vous y réfléchissez et puis vous en trouverez beaucoup. Il y a beaucoup de manières de faire qui n'ont pas changé. Ben, peut-être aussi dans le couple. Ben, on fonctionne en couple comme on a fonctionné, comme nos parents ont fonctionné, et c'était pas forcément bon. Là aussi, il y a des choses à changer. Et puis, le péché n'est pas mort. Ce qui a changé, nous dit l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit que nous avons le pouvoir de ne plus pécher. Hein? Autrefois, vous étiez esclaves du péché, maintenant, vous obéissez de tout votre cœur. Ou alors, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie en Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Mais ça, c'est une chose qu'il faut que je croie intimement. Parce que Dieu l'a dit. Pas parce que je le ressens ou je le ressens pas, pas parce que j'en ai le sentiment. Parce que notre ressenti et nos sentiments ne nous permettent pas de nous construire. Ce qui nous permet de nous construire, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit que la loi du péché ne doit plus prendre le pouvoir sur nous, il faut que je le croie. Et quand le péché se présente, le Seigneur en lui demande et le Seigneur nous aide à résister. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, si nous le voulons bien. Alors, c'est vrai qu'on est confronté à des choix tous les jours. Et on est toujours libre de choisir. Quoique nous n'ayons plus à penser ou à réagir selon la chair, nous pouvons choisir de le faire. Vous savez, dans notre petite communauté, c'est une église de Pentecôte. Alors moi, j'ai découvert les frères et sœurs de l'église de Pentecôte. J'ai beaucoup apprécié. Bien des rapports, on est très chers frères et sœurs, mais des fois on chante, Seigneur, donne-moi plus de ton esprit, ou je veux plus de ton esprit. Et ça me choque, parce qu'on n'a pas reçu un peu de l'esprit. On a tout reçu, tout est sur la table, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. La question est-ce que je suis capable de prendre les promesses qui sont sur la table? Vous savez, dans l'Apocalypse, hein, quand il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, ça s'adresse à des chrétiens, et j'entrerai, si tu ouvres, toujours la question, c'est marrant, c'est encore pour les chrétiens. Et je suis devant le péché, et j'ai le choix, ou j'ouvre la porte et je l'ouvre ou je l'ouvre pas. Et si je l'ouvre, je rentre et je vais manger avec toi. Dieu va nous faire rentrer dans toutes les bénédictions spirituelles qu'il veut nous donner. La croix, elle a deux facettes. Elle a une facette légale. L'ordonnance qui nous condamnait a été enlevée parce que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Légalement, devant Dieu, on n'est plus condamnable. C'est bien déjà. Vous savez, je raconte toujours cette petite histoire, j'ai un peu de temps hein, quand même. Raconte cette petite histoire. Qu'est-ce que ça veut dire être assis dans les lieux célestes en Christ? Compliqué, hein? Je vous explique. En Afrique, dans le village où nous étions, il y avait donc le village, et puis il y avait l'allée centrale, et au bout de l'allée centrale, il y avait la concession du chef. Alors, c'était une grande concession, il y avait toute la famille, il y avait 10, 15, 20, 30 cases, 70 enfants, etc., etc. Et puis, il y avait une seule porte, c'était pas en blanc, et devant la porte, il y avait une entrée. Et là, à côté de la porte, sur une chaise, était assis le chef et les conseillers là autour. Et quand les goumiers du chef allaient chercher dans un village quelqu'un qui avait volé un poulet ou je ne sais quoi, il arrivait et le gars, il se mettait à genoux et puis le chef lui passait un savon, etc., etc. Et c'était chaud pour lui, hein, parce qu'il pouvait être, quand on dit là-bas, on dit qu'il pouvait être bien chicoté, hein, bien fouetté. Hein. Ça leur passait l'envie de recommencer, hein, je peux vous dire. Mais nous, quand nous nous approchons du chef, nos péchés sont effacés. On n'est plus condamnable. On risque pas d'être chicoté. Le chef, il dit, viens, mon enfant, assieds-toi à côté de moi. Et c'est ça, être assis dans les lieux célestes en Christ. Et je regarde, et je suis assis, et je vois la justice du chef. Je vois comment les choses se passent. J'en prends de la graine pour ma propre vie. Et voilà, on est assis dans les lieux célestes en Christ. On n'est plus condamnable. C'est toujours une question que je pose. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez péché? Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Comment ça se passe avec Dieu quand vous avez péché? Il se passe rien, quoi. Si? Quelque chose? Non? Oui? Quoi? T'es pas fier, hein? Ça, c'est d'accord. On n'est pas bien. D'accord. Tu sais que si t'es pas bien, c'est parce que t'as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la preuve que t'as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Hein? C'est vrai, on n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on risque? Rien. Tu as raison. On risque rien. Parce qu'on est dans la bienveillance du Père. Il est tellement content quand quelqu'un revient et dit, tu vois, je me suis encore planté. Il est tellement content. En tout cas, on a toujours le choix. Toujours le choix de demander au Seigneur comment il faut faire. Les lois de l'aéronautique, hein? On y croit. D'accord? Hein? Vous savez, la loi de l'aéronautique, vous avez une aile d'avion, elle est aspirée vers le haut. On n'est pas porté par l'air, elle est aspirée par l'eau. C'est pour ça que les avions, ils ont une aile arrondie. Parce que quand le vent, vous avez une aile arrondie, quand le vent souffle comme ça, il passe ici, et puis ici, il n'y a plus rien là. Donc, il aspire, et ça soulève l'avion. C'est marrant, hein? C'est comme les bateaux. On dit le vent pousse les bateaux, c'est pas vrai. Le vent tire les bateaux. Parce que c'est le vide qui est derrière la voile, qui aspire. Hein? Bon, ça, c'est la loi de l'aéronautique. Mais quand vous montez dans un avion, est-ce que vous pensez aux lois de l'aéronautique? Pas vraiment, hein. Mais vous y croyez quand même. Vous y croyez. C'est la même chose avec Dieu. Alors ça s'expérimente. La vie chrétienne est une suite d'expérimentations avec le Seigneur. Ça commence petit et ça finit grand. Parce que au fur et à mesure que je le connais, au fur et à mesure, je peux lui faire de plus en plus confiance. C'est pour ça que je vous avais. Alors, est-ce qu'on peut, je dirais, ainsi nous avons toujours la possibilité de choisir. Est-ce que je pense que d'écouter la parole de Dieu, de changer mes manières de faire, c'est moins risqué que de garder mes anciennes manières de faire. Ma nouvelle manière de faire avec le Seigneur, j'aime pas le mot obéissance, parce qu'obéir, c'est toujours pour moi un peu... contraignant. Mais j'ai choisi de faire ce qu'il me conseille fortement. Hein, vous connaissez, j'ai mis devant toi, la vie et la mort, choisis la vie. Je te conseille fortement de choisir la vie, c'est tellement mieux pour toi. Est-ce que je peux me lâcher et monter dans l'avion du Seigneur? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ça va pas se casser la figure? On a senti ce matin, même dans les difficultés, il est là et il nous tient. Il tient l'avion en vol. Tiens. Alors, on va passer un peu, voilà, la personne naturelle. On va aller un peu vite là. Donc on est physiquement vivant, mais mort spirituellement. Pas de relation avec Dieu. On est séparé de Dieu. On vit indépendamment de Dieu. On vit selon la chair. Action et choix dictés par la chair. On a parlé de la chair, tout à l'heure, c'est les anciens fonctionnements. D'accord? Notre manière de penser. On n'a pas de base spirituelle pour faire face aux difficultés de la vie. Vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais bien un oui enthousiasme, quand même, parce que c'est le béaba, quand même. On passe à la suivante. Alors, on a un petit dessin, on en a deux ou trois. Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Donc, le corps, on a, avant les interactions, sentir, on va doucement, s'il te plaît. Toucher, voir, sentir, goûter, entendre, parler, bouger. Bon, c'est simple. Ça nous, notre corps nous relie au monde physique. On a une personnalité, on a une âme vivante qui fait un peu l'interface entre l'esprit et le corps, voilà. Ressentir, penser, vouloir, décider. Et puis, elle nous relie aux autres. Voilà. Et l'esprit. Mais l'esprit, il est mort. Et l'esprit au spirituel. Alors, il y a spirituel et spirituel. Puis la personne spirituelle, elle est vivante spirituellement. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la relation avec Dieu. On est transformé par la foi en Christ. Notre esprit est uni à celui de Dieu. Je fais des cours bibliques en ce moment, enfin, une préparation au baptême. Ah, il faut que je vous dise, que dimanche prochain, on a un baptême à l'église à Lyon, ça. Super content. Et que j'ai dit que l'esprit de Dieu, il est avec notre esprit dans notre tête. Et on a toujours ce choix à faire. Lequel je fais fonctionner, comment je les mets en interférence entre les deux. On a reçu l'Esprit de Dieu. On est pardonné, on a été accepté dans la famille de Dieu, et on est conscient de notre valeur en Christ. C'est tellement important, parce que c'est souvent la communauté, le regard des autres qui nous donne notre valeur, mais le regard de Dieu sur nous, nous donne notre vraie valeur. Nous sommes bien aimés, nous sommes dans le bien-aimé, nous sommes bien aimés. Alors la personne spirituelle reçoit sa motivation de l'esprit, de Dieu, au lieu de la chair, en théorie, parce que c'est toujours un choix, c'est toujours mon choix. Renouvelle ma manière de penser, c'est toujours aussi un choix. Mes émotions, là, elles sont aussi transformées, parce que bon, quand je suis en sécurité avec le Seigneur, quand j'ai pas peur du lendemain, quand je sais où marcher, quand j'ai une voie un peu large et puis une voie étroite, je sais qu'il faut marcher dans la voie étroite. J'ai mes choix, choisir de marcher par l'esprit, choisir de se charger chaque jour de sa croix. Souvent on pense que charger, porter sa croix, c'est parce que j'ai une infirmité, j'ai une insuffisance respiratoire ou je boite. On pense que c'est ça. C'est pas ça, se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est accepter les fois la honte qu'il y a quand on témoigne. Quand on fait pas comme les autres parce qu'on a choisi autre chose comme chemin. Et on peut être mis au banc de des gens de notre bureau, des collègues de travail, de nos voisins. Et se conformer à la vérité en opposition aux fausses équations du monde. Alors, je voudrais vous dire un petit peu qu'est-ce que sont que les fausses équations. On croit que si on est performant et qu'on a du talent, ça va nous donner une vie avec du sens. Voilà. Ça, c'est une fausse équation. Donc, le performance plus talent, on pense que ça, c'est bien, et que, voilà, ça va nous donner du talent. Une vie significative, je veux dire. Que si on a de l'argent et des relations, on est en sécurité. On a entendu les scandales, aux États-Unis, de tels producteurs, de telles personnes tellement connues, qui avaient des relations tellement, avec tout le monde, avec les présidents, avec tout ça, et puis, il avait de l'argent aussi, et puis tout s'écroule. C'est une fausse équation. Il faut les réaliser. Il n'y a plus de diapo là? Si, ça vient. D'accord. Et puis encore, l'apparence et l'admiration est aussi une fausse équation. Moi, je pense aux bikers. Vous connaissez les motos, avec les franges, le casque, bien noir, etc. Hein? Parce qu'on est à une belle moto, qu'on a l'apparence d'un biker, on a l'impression qu'on appartient, voilà, et on a de la, les gens l'admirent en passant, et on pense, ça nous fait une appartenance. J'appartiens à un groupe. Et on sait que les groupes, ça se dissout un jour. C'est encore une fausse équation. On pourrait en trouver d'autres. Maintenant, on a l'homme régénéré qui marche selon l'esprit. La nouvelle nature, mon esprit régénéré, est habité par le Saint-Esprit. L'esprit est, attends une seconde, l'esprit est illimité, surabondant, inépuisable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ça donne de l'inspiration, de la créativité, de la liberté et de la générosité. Marcher par l'esprit, ça nous transforme dans tous les domaines de notre corps. Alors bien sûr que la maladie, la vieillesse, les difficultés de la vie, la provocation, la déception, les tentations, les envies, les humiliations, les accidents, tout ça, ça nous arrive encore. Mais il y a des choses qui changent. Est-ce que je décide de laisser mon âme être dirigée par le Saint-Esprit? Est-ce que je décide que mes sentiments et mes pensées doivent être amenés à l'obéissance de Christ? C'est toujours un problème de décision. C'est toujours moi qui décide. Dieu a tout fait. Il a tout donné. Il peut pas faire plus. Vous savez, j'ai été frappé dans la parabole du vigneron qui plante une vigne, construit un mur, fait un pressoir, et puis qui s'en va et qui met un gérant. Vous connaissez l'histoire, la fin des évangiles. Et il envoie un serviteur et les gérants le maltraitent. Il envoie un deuxième, il le tue, il envoie un troisième, etc. Vous savez, le texte dit « Et quand il n'eut plus personne à envoyer, il envoya son fils. » Quand il n'eut plus personne. Alors bien sûr, ça s'adressait aux Juifs de l'époque. Mais que ça nous donne une image de la grandeur de Dieu. Il a tout fait, et à la fin, il envoie son fils dans sa vie. Il a tout fait. C'est quand même extraordinaire. L'amour de Dieu pour nous. Il a tout fait. Le fruit de l'esprit dit ce qui doit sortir. Et vous voyez que le jaune, il touche toutes les parties du corps. Alors on est encore un peu dans l'imperfection. On est bien d'accord. Tout n'est pas jaune, mais ça s'étend, ça s'étend. Ça doit arriver à toucher toutes les parties de notre vie, les choses cachées encore. Puis après, le fruit de l'esprit, hein, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Tu vois, autrefois, on a fait à l'étude biblique, comment je sais que j'ai le Saint-Esprit? Alors vous savez, quand vous parlez à des frères et sœurs de la DD, ils vous disent, c'est parce que je parle en langue. Hein? Sauf que les païens aussi parlent en langue. Alors, c'est un peu... Comment je sais que j'ai le Saint-Esprit? Tout à l'heure, t'as dit, parce que quand je pêche, je m'en rends compte. Hein? Ça, c'est une marque du Saint-Esprit. Mais c'est quand je me retourne et que je vois comment j'ai changé. C'est comme ça que je sais que j'ai le Saint-Esprit. En tout cas, pour moi. Alors, bien sûr, il y a aussi des gens qui n'ont pas fait le choix de se donner totalement. Et ce sont les chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens charnels. Hein? Alors, c'est vrai, on est enfant de Dieu. Notre péché a été effacé, c'est vrai. Mais on n'a pas pris tout le reste que Dieu veut nous donner. Alors, on a tendance à vivre comme une personne naturelle. Alors, on peut avoir un esprit assailli de mauvaises pensées, des sentiments négatifs, des émotions négatives persistantes. On a des restes de stress aussi qui restent là, quelque part. On a des sentiments d'infériorité, d'insécurité, d'insuffisance, de culpabilité, de honte, de doute et de souci. Si je suis enfant de Dieu, qui c'est qui est plus petit, qui est plus grand que moi? Mais personne! Personne n'est plus grand que moi, j'ai pas peur! J'ai pas à avoir un sentiment d'infériorité, je suis un enfant de Dieu! La sécurité, qu'est-ce qui peut m'arriver si c'est le Seigneur veille sur moi? S'il m'arrive des choses difficiles, et nous arrive tous des choses difficiles dans la vie, c'est encore aujourd'hui, mais on les vit avec lui. Ça change. Alors, voilà ce que ça va donner au niveau de l'image. Vas-y. Les choses sont toujours là. L'esprit est toujours là pour nous donner. Il suffit de prendre, mais voilà, est-ce que je prends? Les difficultés de la vie sont là. Mais l'esprit ne change pas beaucoup dans notre quotidien. Ne change pas beaucoup de choses dans notre quotidien. Vous savez, dans les choses matérielles, dans les difficultés du travail, le Saint-Esprit peut nous aider aussi. On a un frère dans notre communauté à Montélimar qui était un chef un petit peu dans une centrale nucléaire. Et ils avaient fait un entretien, un nettoyage, et ils n'arrivaient plus à faire redémarrer la centrale. Et ça commençait à chauffer. Et si ça chauffe, ça peut faire boum. Et il a prié, et dans la nuit, il a eu cette pensée, « Ah, mais il faut mettre cette pompe en marche !» Téléphone, mettez la pompe en marche. Les choses se sont mises. Même dans les choses matérielles, le Saint-Esprit nous donne de la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'instruire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention, ça ne veut pas dire que tout va facile. Mais le Saint-Esprit agit aussi dans les choses matérielles. Alors c'est extraordinaire. Voilà.
Les œuvres de la chair, comme j'ai choisi de garder mes anciens fonctionnements,
eh bien voilà, les choses dont je ne suis pas arrivé à me débarrasser, l'immoralité sexuelle, on peut en parler des heures, l'idolâtrie, qu'est-ce qui est plus important pour moi dans la vie que le Seigneur, l'idolâtrie, les querelles avec ce qu'on est des gens, des hommes et des femmes de paix. Est-ce qu'on est en sécurité pour notre travail? Est-ce que j'ai besoin d'être jaloux? Est-ce que c'est pas le Seigneur qui va me donner la promotion que j'ai besoin? Ou qui va pas me la donner et je vais rester en paix, tranquille? Division, envie, ivrognerie, excès de nourriture. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Le fondement étant Jésus-Christ, on peut construire notre vie avec de l'or, des diamants, des pierres précieuses, ou avec du chaume, c'est la chair, du torchis, de la paille, et quand ça va brûler, on sera sauvé comme à travers le feu. Rien. Rien à apporter et à mettre au pied du Seigneur. On est sauvé quand même, c'est déjà quelque chose, hein? Mais il n'y a rien. Mais être sauvé comme à travers le feu, c'est quand même un peu terrible. Mais surtout, c'est qu'on a raté toutes les bonnes choses que Dieu voulait nous donner, qui étaient sur la table, et qu'on n'a pas prises. C'est ça qui est dommage. Parce que notre vie est ratée. On n'a pas bénéficié de toute la paix, de tout le bonheur, de toute la tranquillité que Dieu veut nous donner, nous a donné. Alors ça tient qu'à nous. Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Nous avons les bénédictions de l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu doit faire en plus pour nous rendre libres en Christ et que nous portions le fruit? Il n'y a rien. Il a tout fait, il a tout donné. Alors, je vais donner la suite du verset qui était au début. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Et la sagesse, c'est écoute ce que Dieu veut te dire pour ta vie. C'est ça la sagesse. Et celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, c'est pas une demande comme ça. Mais quand on demande quelque chose à Dieu, j'ai demandé quelque chose à l'Éternel et je le rechercherai. Quelle est la sagesse pour ma vie? Et je la cherche dans la parole de Dieu. Et là, ça va changer les choses. Et Dieu va nous donner en abondance. C'est super, hein? Pour la vie qui vient, pour nos jours qui viennent. de grandir là-dedans. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.